Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission et toute l'équipe de production est en place. Deb s'est vite à la mise en onde, Naomi Muto qui est coordonne et réalise cette émission, Patrick Yassongwa assure la retransmission live sur les plateformes digitales de Radio Okapi et jeudi Daniel Kachama au micro. Comment démasquer une fausse offre d'emploi? Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus des offres d'emploi qui ne sont pas vraies, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et ces arnaqueurs vous demandent de l'argent pour le suivi et après, ils ne prennent plus le téléphone, ils disparaissent dans la nature. Comment démasquer une fausse offre d'emploi? C'est notre premier sujet, on va l'aborder dans quelques instants avec Monsieur Stanislas Capena qui est point focal. Qui est voilà le point focal de à l'Office national de l'emploi, ONEM. Et puis nous avons également Monsieur Alain Poutou, expert en ressources humaines. Voilà, Monsieur Stanislas est déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste. Merci. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue dans cette émission. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler du plagiat, la tricherie et la violence dans nos universités. Quels sont les remèdes? Monsieur l'abbé Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, sera notre invité à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, composez déjà le 081 82 82 827, 081 82 82 827, pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Okapi.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui des fausses offres d'emploi, comment les démasquer. Vous savez, de plus en plus, des escrocs publient des fausses offres d'emploi sur les réseaux sociaux ou en utilisant les logos de certaines entreprises ou bien ils vous appellent par téléphone pour vous informer. Par exemple, à Lubumbashi, dernièrement, il y a eu beaucoup de cas de fausses offres d'emploi. Une nouvelle a circulé selon laquelle une entreprise minière recrute 900 nouveaux travailleurs à des différents postes. Et profitant de la vulnérabilité des chômeurs, ces escrocs exigent de l'argent pour le suivi des dossiers jusqu'au recrutement. Après avoir perçu les fonds, dès que vous envoyez l'argent, eh bien, ils disparaissent dans la nature, leur téléphone ne passe plus et puis voilà, et c'est fini. Alors, comment démasquer une fausse offre d'emploi? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons en ligne Monsieur Stanislas Capena, qui est de l'Office national de l'emploi, l'ONEM. Monsieur Stanislas, encore une fois, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour à vos auditeurs, donc aux auditeurs de la radio Capi.
Bien. Alors, il y a de plus en plus de fausses offres d'emploi. Comment reconnaître une vraie de celle qui ne l'est pas.
Merci, monsieur le journaliste, de l'opportunité que vous nous donnez de clarifier un peu plus cette question épineuse. Vous avez raison de dire qu'il y en a de plus en plus. Non seulement que nous en avons connu, nous aussi, ici au niveau de l'ONEM, non seulement on a vu circuler des offres au nom de l'ONEM, mais on a reçu des gens, des candidats. Malheureusement, c'est quand ils ont déjà envoyé l'argent qu'ils viennent à pied en pleurnichant. Moi-même, personnellement, j'ai été plusieurs fois contacté par ces gens pour ça. Alors, c'est vraiment important d'alerter, d'avertir. Et je voudrais croire que après cette émission, ceux qui vont tomber dans ça, ce sera, je sais pas quoi, même pas là, ce sera plus que la sorcellerie, parce que on aura assez sensibilisé sur ça, on aura assez attiré l'attention sur ça. Comment démasquer une fausse offre? J'espère que je serai complété par l'autre invité, parce qu'il est aussi expert, il est spécialiste en RH, en ressources humaines. Moi, je vais vous donner quelques éléments de notre petite expérience que nous avons ici à l'ONEM. Moi, je suis à la coordination de la gestion des offres. Donc, nous vivons ça au quotidien. C'est des choses que nous vivons au jour le jour que nous allons vous partager ici. La première chose, vous savez qu'il y a les offres. On peut avoir les offres en dur, donc les offres papier. Tout comme aujourd'hui, de plus en plus, on peut avoir des offres en soft ou en ligne. Pour une offre en papier, donc une offre en dur, déjà une offre qui n'a pas d'élément d'authentification. Qu'est-ce que j'appelle l'élément d'authentification? Un document offre, soi-disant, qui n'a pas de signature, qui n'a pas de cachet, déjà doit tiquer, doit attirer votre attention. Une offre où on ne vous dit pas l'adresse physique ou électronique de l'entreprise qui du reste doit être bien connue, où vous devez déposer votre soumissionné. Ce n'est pas encore des rendez-vous. Vraiment, il faut, parce que on peut encore lire dans ça les enlèvements. Il faut attirer l'attention. On peut vous dire pour telle offre, rendez-vous à tel endroit, vous arrivez là-bas, c'est autre chose. Pour aller déposer, il n'est pas encore question d'aller rencontrer. Une offre qui n'a pas cette adresse-là physique ou électronique d'une entreprise bien connue, on vous dit, voilà, c'est ici qu'il faut aller solutionner, ça doit tiquer. Je ne dis pas que c'est déjà tout mauvais. Oui. Mais c'est des éléments qui doivent attirer l'attention.
L'attention,
mais
bien
en plus
sûr.
De ça, maintenant j'ajoute. Quand ça doit se passer par personne interposée. Je serais complété, j'ai dit, généralement, les entreprises ne font pas de commission. Ils n'engagent pas des individus, des personnes interposées pour recevoir ou chercher pour eux des candidats.
Oui.
Donc, quand c'est...
Il n'y a pas d'intermédiaire.
Voilà, moi, je suis... Il n'y a pas d'intermédiaire. Plusieurs fois, vous savez, même pour vous, la Radio OKP, la MONUSCO, hein, les organismes, il va vous dire, vous appelez, voilà, moi, je travaille à la MONUSCO, il y a des offres, moi, je peux vous aider à trouver. Déjà, ça, vous devez vous dire que c'est de l'arnaque. Et en plus de ça, quand on vous demande de l'argent, ok, il dit que voilà, moi, je peux vous aider pour cela, vous devez envoyer de l'argent à ce numéro mobile man.
Oui.
Ça, c'est déjà des choses, monsieur les journalistes, même les yeux fermés, quand vous dites ça, c'est du faux.
Mais comment ça expliquer que les gens arrivent à les croire aussi facilement et à envoyer de l'argent?
Très bonne question. Là, vraiment, vous avez touché là où je voulais arriver, monsieur le journaliste. Nous avons une mentalité que nous devons combattre et bannir depuis un temps au Congo. La plupart, surtout les jeunes, pensent que pour tout, il faut un parrainage. Alors, comme on veut la vie facile, même pour des choses qui sont à notre portée, on pense qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui m'amène, qu'il y ait quelqu'un. Et c'est quelqu'un... Moi, j'ai reçu des gens plusieurs fois. Une parenthèse, nous avons organisé des job days, il y a des candidats qui venaient s'enregistrer, c'était gratuit. Mais il vous dit, je laisse mon dossier, mais j'ai réservé un 5$ pour vous. Moi, je dis, messieurs, moi, je suis engagé par l'État congolais, je suis payé.
Oui.
Il a insisté, je vous dis, il n'y a pas un mois. Donc, il a insisté, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Comment les gens, ça veut dire que les gens pensent que pour que ça marche,
il faut donner de l'argent.
Il faut qu'il y ait il faut donner de l'argent. Et c'est là la faiblesse et que les autres, les arnaqueurs utilisent, exploitent pour rançonner. Donc, il faut que les jeunes sachent qu'ils ont du talent. Si vous permettez, hier, on était en échange avec le jeune d'Enabel, Enabel comme employeur. Ils veulent même organiser des sensibilisations pour dire que les jeunes arrêtent de dire « Ah, ils ont déjà leur genre ». Non, quand on diffuse une offre, allez challenger, allez postuler, cet objectif, c'est...
Parce que il ne faut pas s'auto-éliminer déjà dès le départ.
Oui, mais c'est parce que justement les gens ont ça dans leur tête, les jeunes, ils pensent que non, déjà, quand l'offre est publiée, ils ont déjà leur genre, il faut payer, et même quand ça leur portait, ils les ratent. C'est là le grand problème. Donc cette émission devrait aussi servir à sensibiliser les jeunes en particulier, mais tout le monde, à ce que les offres, ça n'a jamais été question de l'argent. Ça n'a jamais été question des personnes interposées. Et puis, il y a des procédures. Je voulais, si vous avez encore le temps, maintenant qu'on parle un peu des offres, faut qu'on diffuse.
D'accord, hein, je reviens à vous le temps d'accorder la parole à M. Alain Poutou, qui est expert en ressources humaines. Okay. M. Alain, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi aux auditeurs de Okapi Service.
Bien, M. Stanislas Capena, point focal, alors même chargé de la coordination des offres, nous a dit que si vous voyez une offre qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de signature, et puis il y a des intermédiaires qui vous disent non, nous venons pour le compte de telle entreprise, il faut déjà faire attention, ça peut être un escroc.
Effectivement, il a raison. Le problème aussi, c'est quoi? C'est que certains employeurs qui ne maîtrisent pas la législation du travail. Il y a ce qu'on appelle la déclaration de l'ouverture de la main des vrais. C'est-à-dire 48 heures, par exemple, avant de rendre une offre d'emploi officielle ou avant de l'afficher, vous devez l'amener à l'Office national de l'emploi pour que l'Office national de l'emploi puisse viser cette offre. Une fois que l'Office national de l'emploi a visé l'offre, c'est en ce moment-là que l'employeur peut afficher l'offre. C'est ça normalement la procédure. Mais il y a certains employeurs qui ne suivent pas cette exigence. Oui. Parfois, ils rédigent des offres d'emploi qui n'ont pas de cachet, qui n'ont pas le visa de l'ONEM, mais du moins il faut qu'il y ait l'adresse de l'entreprise et la voie par laquelle on doit transmettre le dossier de candidature. S'agissant de ce qu'on voit, moi je vois ça aussi souvent, les gens oublient que moi je suis un directeur de ressources humaines quelque part, ils vous envoient un message pas plus tard qu'hier, un certain il t'écrit, dit non, moi c'est Papa Jean, appelle-moi, j'ai une opportunité d'emploi dans les agences du système des Nations Unies pour vous.
Donc, ah bon, ils vous ont envoyé un SMS.
Je vous dis que j'en ai ici. Papa Jean, l'autre, vous écrit, moi, c'est l'honorable Etel, appelle-moi, j'ai une opportunité. Alors, il oublie qu'il écrivait à quelqu'un qui travaille. Moi, je connais un peu comment les systèmes des Nations Unies fonctionnent. Oui. Alors, j'ai rigolé, j'ai dit, mais ça, c'est un aventurier. Il y en a même qui vous demandent même de leur envoyer quelque chose par MPSA, comme l'a dit M. Stanislas. Mais non, mais ça, c'est de l'arnaque. Le problème, c'est que...
Et dernièrement, à Lubumbashi, c'était chaud. Il y a eu beaucoup de cas.
Mais justement, le problème, c'est quoi? Comme il a dit ici, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que les gens eux-mêmes sont un peu de naïfs. Bon, ça, c'est trop dur, peut-être. Le problème, c'est quoi? On se retrouve dans une situation selon laquelle il y a plus de demandeurs que les opportunités d'emploi qui se trouvent sur les marchés. Alors, ce qui fait que les gens maintenant, tout ce qu'on leur dit, ils se plient à ça. C'est-à-dire, ils prennent plus le temps d'analyser, de réfléchir pour dire, écoutez, est-ce que vraiment dans une organisation sérieuse, pour qu'on m'embauche, est-ce qu'on doit vraiment me demander 20 dollars? Oui. Et les 20 dollars en question, quand on me les demande, je dois l'envoyer par la messagerie mobile, tout ça. Mais ils ne prennent même pas le temps, c'est-à-dire...
Les gens sont naïfs,
ils s'emportent comme ça. Et puis, alors, quand vous essayez un peu de dire à ces gens-là qui envoient ces messages ou qui vous appellent, moi, souvent, qu'est-ce que j'ai fait? Je les rappelle par un autre numéro qu'ils ne connaissent pas. Oui. Alors, après, ils t'injurient, mais aux abololés, tout, parce qu'il a compris que...
Tu l'as démarqué.
Mais tout à fait.
Et donc, beaucoup de gens sont tombés dans les panneaux.
Justement, parce que ces problèmes de parapluie, comme venait de le dire Monsieur
Stanislas.
Oui. En fait, comme j'ai dit, on a deux types de marchés. Il y a les marchés ouverts et les marchés fermés. C'est-à-dire, j'entends souvent les gens qui disent, non, pour trouver de l'emploi, il faut avoir des parapluies, il faut avoir des relations. Mais moi, je dis souvent aux gens qu'il faut quand même, lorsqu'on tient de tels propos, on doit quand même être clair. C'est vrai, on est dans un système, on connaît.
Oui.
Par exemple, le gouvernement vient de sortir. Vous n'entendrez pas des offres d'emploi pour recruter les gens au cabinet ministériel.
Non, voilà. On n'a jamais entendu.
On n'a jamais entendu. Oui. C'est-à-dire, le recrutement s'est fait soit de bouche à l'oreille ou soit par voilà, des affinités, tout. Ça, c'est ce qui est réel. Personne ne peut vous tromper qu'il y a une offre d'emploi dans un cabinet ministériel, on recrute des conseillers, ça n'existe pas. Maintenant, bon, il y a des entreprises qui recrutent. Certains, oui, quelqu'un est là, il devient directeur général ou directeur général adjoint ou président du conseil d'administration. Il va utiliser son influence, n'est-ce pas, pour faire embaucher les cousins, les cousines, les beaux-frères, les petits-frères, les nièces, tout. Et souvent, c'est une liste qui est confectionnée, qu'on dépose et puis après, ces gens-là sont embauchés. Mais est-ce qu'on doit généraliser? Maintenant, moi, la question que M. Jody, je pose souvent aux gens. Ceux qui n'ont pas de parapluie en politique, ceux qui n'ont pas de relations au niveau de la politique, ils ne doivent plus travailler. Parce que si moi je sais que moi je n'ai pas de relations, je n'ai pas de parapluie, je n'ai personne qui peut me propicier ou me porter, mais alors que je dois travailler, mais moi je vais aller dans les marchés ouverts. Les marchés ouverts, c'est lesquels? C'est les marchés où on trouve des offres d'emploi qui sont affichées, mais simplement. Les profils recherchés par ces marchés ouverts ne cadrent pas avec la formation académique que beaucoup de demandeurs d'emploi ont suivi.
Oui.
C'est cela le problème. Parce que, regardez, vous ne trouverez pas dans un marché fermé, on va vous parler des années d'expérience. Les recrutements à la fonction publique, dans les ministères ou dans des. Il n'y a pas question. C'est-à-dire, le fait d'être diplômé d'université, vous avez un niveau, un bagage intellectuel, la capacité de réfléchir et d'analyser. On vous recrute. Mais quand vous allez dans les marchés ouverts, les marchés compétitifs, l'offre d'emploi est publiée, on a besoin d'un assistant comptable, on a besoin d'un chargé de suivi évaluation, vous vous retrouvez à 5 000, mais on va recruter une seule personne. Alors quand vous regardez les exigences de ces offres, vous comparez ça avec tout ce que vous avez eu comme formation académique ou cours à l'université, vous avez tendance à vous demander, mais qui est-ce qu'on cherche réellement? C'est pour cela que les gens qui ne répondent pas au profil, ils ont comme argument, ils ont déjà trouvé des gens, ils font semblant, ce sont des simples formalités. Or, le problème, c'est que votre profil ne correspond pas au profil recherché.
Et ce sont ces gens-là qui deviennent des proies faciles,
mais tout à
les
fait,
escrocs.
Tout à fait, parce qu'il n'y a pas une préparation à l'insertion professionnelle. Okay. Normalement, ça doit être...
Un instant, on va accueillir les auditeurs. Platini, vous êtes en Bandaka et Chrysostome depuis Arou. Platini, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, je salue l'invité.
Quelle est votre question, Platini?
Voilà, merci beaucoup pour votre de ce débat. Un débat vraiment une thématique très, très capitale. Parce qu'au Congo, les Congolais souffrent avec ce système. Moi, personnellement, je peux aussi me témoigner. Je suis tombé dans le même système il y a trois fois, disons.
Ok.
D'ici là, il y a deux mois. Il y a l'année passée, il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc il est à King, il m'a appelé par le numéro Vodacom. Oh mon cher ami, il me dit avec mon nom complet, donc la personne, moi il me connaît. Mais il me dit, ce qu'il me dit là, moi je trouve que c'est sérieux. Mon frère ami, donc il y a un frère, tout ça, mais on vous recrute, etc. Tout ça, mais il faut envoyer $150.
Bon, et moi, vous avez envoyé les 150.
Moi, je trouve que c'est l'opportunité, vraiment, c'est bien, c'est un salaire de $800 par mois. Moi, je trouve que moi, je dois me battre pour avoir cet argent. Et pendant la soirée encore, je me suis battu, j'ai eu $100 en main.
Vous avez envoyé.
Il faut totaliser
les 150.
Je n'ai pas encore vraiment dit. Il faut totaliser les $150. Je dis cachement. Je suis allé chez moi à la maison. Je suis comment chercher un truc qui est à vous. Je vanis ça. J'ai totalisé $150 et le lendemain, le matin, je l'ai appelé au téléphone, mon cher, j'envoie. Ok, ça va envoyer par le même numéro. Ça va te dire quel nom? Le nom qu'il m'a dit, c'est aussi le contrat, le nom qui est affiché sur le MPSA Vodacom.
Oui.
Bon, comme je suis soucié de ce travail, tout ça, je l'ai envoyé par les numéros-là. Les numéros-là, je ne me disais pas le numéro qui est sorti. Et quand j'ai envoyé cet argent, je l'ai encore appelé. Est-ce qu'il est commis? Mon frère est commis, il est commis. C'est bon. Et après 2-3 heures du temps.
Oui, le numéro ne passe plus.
D'accord, le numéro est fermé.
Voilà.
Ne passe plus, c'est fermé. Et jusqu'au propre du contrôle, ce numéro ne passe pas. je suis allé au sein de WhatsApp chercher les numéros de sécurité pas sur WhatsApp. Et juste pour du contraire, rien, il ne se passe pas, les 150 dollars est parti comme ça. Et les numéros restent toujours fermés. Et aussi, la question, l'invité a bien dit, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Donc, c'est le problème, c'est nous-mêmes.
Et Platini, comment vous êtes fait escroquer trois fois? La première fois, la deuxième fois, vous n'avez pas tiré des leçons et vous êtes tombé encore dans.
La première fois, c'est quoi? La personne lui-même se trouve dans la vie de Mandaka. Dans la vie de Mandaka, il se marquait dans un numéro de téléphone, numéro orange. Il me dit, qu'est-ce que mon cher? Offre-moi vos idées, tout ça, etc. Ah, Mandaka, bon. Je suis allé palper les formations, j'ai trouvé que oui, c'est bon. Oh, la personne a accepté ça. J'ai envoyé 50 dollars en vain.
Voilà. Oui, oui, Platini. Oh, les autres attendent. Allez-y rapidement. Quelle est la question que vous adressez aux invités rapidement?
La question que je veux poser aux invités.
Oui.
Quels sont les mécanismes que les gouvernements peuvent mettre en place sur le plan de l'escroquerie numérique? Voilà.
Merci. Hein. Chrysostome, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Vraiment, merci de nous apporter à ce débat. Bon, déjà, d'actuel, je sais que nous pouvons dire que personne n'est à l'abri de l'escroquerie. Hein. En matière d'escroquerie, personne n'est à l'abri. Parce qu'il suffit que votre bourreau soit plus intelligent que vous pour être victime. J'ai déjà vu un avocat qui s'est fait escroquer par un prisonnier. J'ai déjà vu un gouvernement provincial.
Oui.
Tout un gouvernement provincial
être
qui s'est fait escroquer par un Chinois. Alors, tout ça, c'est pour dire que, vous voyez, en matière d'escroquerie, si on remonte, à commencer par le jardin d'Eden, parce que c'est là où
l'escroquerie a commencé. L'escroquerie
avait commencé. En passant par Jean de la Fontaine, jusqu'aujourd'hui, toutes les escroqueries ont un point commun. Le point commun, c'est ce que Jean de la Fontaine avait dit. Toute la terre vit au dépens de celui qui l'écoute. C'est-à-dire, l'invité, M. Stanislas l'a dit, qu'il y avait une personne qui s'acharnait sur lui pour lui demander 5 dollars. Après, il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, le problème, c'est que les victimes d'escroquerie prêtent toute attention à ces gens-là. Donc, pour lutter contre l'escroquerie, il faut faire comme l'invité venait de le dire ici, le monsieur qui a parlé récemment, il ne faut pas leur prêter trop attention, parce que à chaque fois que vous leur prêtez attention, ils vont arriver à vous escroquer.
Bien.
Alors, je laisse la place à d'autres personnes.
Merci, tout le monde peut se faire escroquer. Bien, Bled Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour. Bled Saïdi, bonjour.
Oui, bonjour cher Jody, bonjour à l'invité Alain Boutou.
Bonjour. On vous écoute.
Voilà, cher Jody. Oui, merci bien. C'est une thématique très intéressante, puisque moi qui vous parle ici, il y a une personne qui voulait tenter à cette histoire, et il m'avait dit que non, il est dans la ville de Kindu, ainsi de suite. Voilà, je lui avais seulement demandé que non, donnez-moi les différentes communes de la ville de Kindu. Il était incapable. Et après, je lui avais écrit que non, tu es menteur. J'ai donné tout ce qui était à lui donner, puisque je n'étais pas content de lui. Cette histoire se passe plus dans des réseaux sociaux. Hein?
Ok.
Vous verrez que non, les gens qui prennent les images de le président de la République, de la première dame, ainsi de suite. Voilà. Cher, je dis pour aller vite, pour démasquer une fausse offre d'emploi, est essentiel pour éviter les anarques et protéger ses données personnelles.
Allô? Allô?
Oui.
Oui, monsieur voilà. Blaise, quelle est la question?
Je dois aller juste à...
Oui, la question rapidement.
La première question, quel rôle les autorités et les plateformes d'emploi devrait-elle jouer pour lutter contre ces pratiques? La première question. La deuxième question, quels sont les indices les plus courants d'une fausse offre d'emploi? Et
Bien, il y a quelques soucis au niveau de la communication. Bien, on a compris votre préoccupation. Monsieur Stanislas Capena, vous avez la parole.
Merci, monsieur le journaliste. J'ai rejoint un peu mon co-débatteur quand il va parler de la législation. Les gens doivent savoir qu'en matière d'offre d'emploi, il y a la législation, il y a la norme même. C'est-à-dire que l'offre, c'est l'objectivité, la non-discrimination, l'inclusion sociale, le non-monnayage, la non-commercialisation, j'allais dire. Mmh. Alors, dans la législation, vous avez une offre qui n'a pas de cachet, mais qui n'a pas le cachet de l'entreprise, mais qui a le cachet de l'ONEM, c'est une bonne offre, c'est une vraie offre. Pourquoi ? Parce que les offres, l'ONEM ne ramasse pas les offres dans la rue. Les entreprises viennent par voie de courrier transmettre les offres. Et l'ONEM accuse réception. Dès lors qu'une entreprise est venue déposer l'offre à l'ONEM par voie de courrier et l'offre est réceptionnée avec accusé de réception, ça c'est déjà une vraie offre. Donc, alors, j'ai voulu aussi insister un peu pour vous dire, parce que là aussi on a trop accusé l'ONEM. L'ONEM fait tout pour vraiment combattre ces choses. Que l'ONEM, on a toujours dit que les services de l'ONEM sont gratuits, et gratuits, on insiste, on souligne avec stylo rouge, gratuits. Et les gens disent qu'il faut faire viser l'offre, et pour ça encore, on commence, l'ONEM parfois demande de l'argent. C'est faux. Alors, le seul visa dont parle la législation, c'est des contrats. Mais je comprends ce que mon co-débatteur a dit, j'ai compris, c'est un problème de terminologie. La loi dit que les entreprises ont l'obligation de déposer, donc déclarer leurs vacances. Ok, et quand vous le faites, l'ONEM accuse réception. Il reconnaît cette offre, il authentifie. Vous pouvez la diffuser chez vous, mais l'ONEM va et doit aussi la diffuser chez lui après procéder à la présélection. Vous voyez, ça c'est des éléments comme quelqu'un a demandé si les indices probants pour attester de l'authenticité d'une offre. Ça c'est des choses comme ça qu'il faut. Alors, l'escroquerie numérique, il y a toute une loi, il y a la loi sur le numérique, donc je pense que on pourra y revenir peut-être à l'occasion d'une autre réunion, émission, où les spécialistes du numérique pourront revenir sur ça. Alors, aujourd'hui encore, monsieur le journaliste, les choses évoluent beaucoup. Voilà, une parenthèse. Une offre en dur, publiée dans le Valve de l'entreprise, ça c'est encore une vraie offre. Par exemple, vous, dès que vous êtes là, vous avez, en tout cas, je vois beaucoup de sites de Monusco où il y a des valves. Quand vous avez vos offres, vous les placardez aussi dans vos valves.
Oui.
Puisque c'est votre valve, puisque c'est chez vous, et quand on trouve une offre chez vous, là, on ne peut pas douter quand on voit que c'est Monusco, tout ce qui recrute. Et puis, je pense que généralement, vos offres respectent la norme. On va trouver tous les éléments d'authentification et on fait. C'est généralement clair. Mais aujourd'hui, voilà encore, je réponds à la deuxième question. Comment faire pour barrer la route? Le rôle des plateformes. Et c'est là, justement, la solution. Les choses se modernisent, se digitalisent. Évidemment, il y a aussi beaucoup de fraudes dans le digital. Mais la solution est claire. Vous tombez sur une offre. Monsieur le journaliste, vous n'avez que à aller consulter la plateforme de l'entreprise parce que ça existe. L'offre que vous avez, qui ne se trouve pas dans la plateforme de l'entreprise, comment voulez-vous la considérer de l'entreprise? Comment voulez-vous la considérer vraie? Et l'ONEM aussi, pour contribuer justement à ce combat, pour combattre, a mis en place la plateforme, et on en parle toujours depuis un temps, et là aussi, nous diffusons toutes les offres que les entreprises nous déposent. En même temps, nous leur donnons la possibilité de le faire elles-mêmes, les entreprises, à partir de leur bureau. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont au bureau, ils se connectent via leur compte à la plateforme de l'ONEM, oui. Ils diffusent l'offre, l'ONEM valide, et ça devient officiel. Généralement, comme je l'ai dit, toutes les offres diffusées sur la plateforme de l'ONEM, c'est des vraies offres, parce que c'est des offres authentifiées. Mmh. L'ONEM, en amont, fait le travail d'authentification des offres auprès des entreprises qui les déposent, et après les diffusent. Donc, déjà quand vous voyez les offres chez nous, c'est bon. Nous avons même des partenariats, d'autres sont en cours, avec les entreprises pour que, qu'il y ait des connexions entre leur plateforme avec la nôtre, de sorte que l'offre qui est diffusée chez eux est déjà renseignée chez nous et vice-versa.
Bien.
Ça, c'est des mécanismes qu'on met en place pour barrer la route
aux escrocs.
À ces
À ces escrocs, là.
Oui, oui, voilà, bien. Aux escrocs.
Bien, merci.
Et c'est pourquoi je disais à l'issue de cette émission, oui. Ceux qui vont continuer à se faire arnaquer, ça c'est autre chose, en tout cas c'est autre chose parce qu'ils ne s'aiment pas.
Voilà. D'accord, on va accueillir Christian de Bounia et on a deux Christians. Le premier est à Bounia, le deuxième à Kinshasa. Christian de Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati. Bonjour même ici à l'invité. Bon, sur les problèmes de financement des jeunes entrepreneurs du Congo, nous, les jeunes de l'Ituri...
Non, on ne parle pas de financement. Christian, on ne parle pas de financement des jeunes entrepreneurs. Nous parlons de comment démasquer une fausse offre d'emploi. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce thème?
Bon, je suis... Mais ce que moi, je voulais faire... Bon...
Merci beaucoup. Alors, on va retenir votre proposition des sujets, financement des jeunes entrepreneurs. On va aborder ces thèmes lors d'une prochaine émission. Merci d'avoir appelé. Diallo, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur Daniel Kachem.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux escrocs qui arnaquent les gens avec des fausses offres d'emploi?
Allô?
Oui, on vous écoute, Diallo.
Oh non, il y a un problème de connexion ici.
Non, mais on vous capte très bien ici. Allô? Allô, Diallo? Bon.
Oui.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Attends, j'essaie un peu de me déplacer.
Oh là là. Mais nous, on vous capte 5 sur 5. Bon, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur Alain Poutou.
Oui, tout à fait. Vous savez, il y a les caractéristiques d'une offre authentique et fiable. D'abord, il y a le titre du poste, la référence, mm-hmm. et la brève présentation de l'entreprise. Il faut que cette entreprise fasse une brève présentation. Nous, aux ressources humaines, il y a ce qu'on appelle l'objectif du poste, c'est-à-dire la raison pour laquelle la vacance est ouverte. Mm. On doit faire
on
une...
On doit expliquer
oui,
ça.
Il faut expliquer.
Oui.
Et puis, on a les responsabilités spécifiques du poste. Déjà, une personne attentive qui trouve une offre d'emploi dont l'entreprise n'a pas fait sa description, qui est-elle? On n'a pas vu.
On n'a pas vu.
L'objectif du poste, on n'a pas indiqué, renseigné cela. Mm. Les tâches spécifiques, il n'y en a pas. Les profils recherchés, on doit... Il y a les compétences, les exigences. Et comment postuler? À qui est-ce qu'on doit s'adresser si on trouve qu'on répond au profil? Et il y a l'adresse physique. Certaines entreprises n'aiment pas que les gens viennent déposer physiquement.
Physiquement, il faut envoyer...
On envoie par mail.
Une adresse mail.
Voilà. Alors, l'adresse email par laquelle on doit envoyer les dossiers de candidature devrait être une adresse mail de l'entreprise. On ne peut pas dire, par exemple, recrutement@gmail.com. Non, mais non. Là, il y a un souci.
Oui.
Comment, à l'entête, on voit bien que c'est la radio Capi, mais
l'adresse
mail,
en bas, on...
c'est, par exemple, voilà, recrutement@ ou radio Capi, recrutement@gmail.com. Gmail. Non. On devrait avoir une adresse email qui est liée au site de l'entreprise.
Oui.
Alors, une fois que vous regardez tout ça, la deuxième étape consiste à aller maintenant vérifier le site internet de l'entreprise en question pour voir les éléments en détail.
Parce qu'il y a des escrocs aussi qui créent des sites internet.
Oui, ils créent des sites internet. Alors, il faut aller vérifier pour voir, par exemple, les activités, qu'est-ce que l'entreprise a déjà fait, la référence du site, tout ça. Vous réunissez ces éléments-là. Mm. C'est en ces moments-là que vous allez dire qu'effectivement, l'offre est authentique. Cela n'exclut pas les éléments liés à la législation, tels qu'on a dit ici qu'il faut vraiment qu'on se rassure qu'il y a les cachets de l'ONEM. Parce qu'aussi, vous voyez, la différence entre l'ONEM et l'inspection du travail... Je l'avais dit une fois qu'il faut même qu'on modifie les statuts qui a créé l'ONEM, rendre aussi les interventions de l'ONEM à caractère un peu contraignant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent sans pour autant remplir cette formalité. Vous trouverez des offres qui sont authentiques, mais qui ne sont pas passés par, par l'ONEM, qui ne portent pas les cachets de l'ONEM.
De l'ONEM.
Voilà.
Donc on ne sait pas les authentifier.
Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment fiable. Je peux vous dire que moi, j'ai travaillé depuis le début de ma carrière jusqu'à ce jour. Je suis passé par au moins 6 organisations internationales. Mais je peux vous rassurer que sur les 6, il y a une seule qui avait l'offre et qui portait les cachets de l'ONEM. Mais c'était pas des fausses offres, vous voyez. Mais il y a des caractéristiques. Mais normalement, vous ne pouvez pas afficher l'offre d'emploi sans que l'ONEM puisse y apposer les cachets. Alors, il faudrait aussi qu'on voit dans quelle mesure, en tout cas, sensibiliser les employeurs. Vous voyez, l'une des stratégies pour vraiment décourager ce système, si tous les employeurs savent que pour publier, il faut que l'ONEM appose son cachet, ça devient une communication générale. Et à ceux qui cherchent l'emploi, si vous trouvez une offre d'emploi qui n'a pas de cachet, qui n'est pas visée par l'ONEM, il ne faut pas prendre ça en considération. Donc, même si ça peut être vrai, ça sera une stratégie pour pousser aussi à toutes les entreprises, à tous les recruteurs, de se conformer. Vous voyez? Oui. Alors là, ça va aussi permettre à ce qu'on décourage
les escrocs.
Tout à fait.
Bien, on va accueillir Papi Mboyo de Mbandaka. Diallo, vous êtes à Kinshasa, et Justin Koulou de Fungurume. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081-82-82-827.
Okapi.
Comment démasquer une fausse offre d'emploi? Papi Mboyo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la place.
Quelle est votre question?
Merci, monsieur Jody, de m'avoir, merci de m'avoir accepté dans ces débats. Vraiment, la question vraiment, elle est très délicate, monsieur Jody. C'est de la sorte que moi aussi j'ai un petit témoignage à ce niveau. Vers les années 2015-16, pour arriver à 2018 pour faire les élections, il y avait une organisation ici. On nous dit, non, vous venez de finir vos études, parce qu'on a fini les études en 2010. On nous dit, il y a un réseau, ça s'appelle RIET, Réseau International Anticorruption. Vous serez basé pour suivre les élections, le déroulement des élections. Et c'est anti-corruption, on va vous payer beaucoup d'argent, tout ça. Le financement vient de l'Europe, les États-Unis, des moyens, tout ça. Pour que vous soyez bien, vous ne serez pas corrompu, vous résistez face à toutes les tentatives de corruption. Vraiment, vous serez bien payé, mais à condition que vous commencez d'abord à payer 5 $ chacun, 50 $ chacun. On voit ça, il y avait un député de la place, il avait consommé cette offre-là. Il nous a sensibilisés avec sa fille, on crée des connaissances et tout. Là, on a payé des 50 $ avant, non, il faut payer encore 20 $. Le coordinateur national va venir de quitter, on va l'accueillir le dimanche. C'est un pasteur, un homme de Dieu, vraiment des motivations comme ça. Et le jour suivant arrive, ouais, le coordinateur est venu, il était un Moulouba, il est venu en Mbandaka, il dit c'était un pasteur, comme le monsieur qui avait reçu la mission, c'était aussi un pasteur, lui a confié son église, il a prêché. Vraiment, il a prêché au niveau de. On dit, oh, c'est bien, vraiment, on fait du travail. Demain matin, il passera à voir le gouverneur pour lui présenter ses civilités. Après cela, et il va lancer la formation. Après la lancement de formation, il va larguer les gens sur le terrain. On dit, bon, ok, ça va. Attends, nous, on commence à faire la question à Maïe. Toi, tu ne vas pas travailler. Toi, tu n'es pas compétent. Or, que c'était une arnaque. À la fin du compte, elle a commencé à donner des formations et tout, voilà, pour ne pas être corrompu. Il faut faire ceci, cela, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais jusque-là, on n'a pas de moyens. On ne vit que des moyens propres. Comment ça, ça devient comme ça? À la fin, on dit non, il va aller, il faut cotiser encore l'argent pour lui payer des poissons, des équateurs. Si c'est... On a fait énormément
voilà.
De dépenses.
Et vous avez dépensé, et à la fin, les gars ont disparu dans la nature.
À la fin, il est parti. Il est parti. D'ailleurs, on a eu même le bureau où il est venu, il a coupé les rubans pour voir, pour nous signifier que c'est vraiment des choses vraies. Comme on est à la veille des élections.
Ça, c'est vraiment un super risque. Oui.
Voilà, on dit, bon, ok, on a eu vraiment le boulot. Le monsieur est parti pour ne plus venir.
Oh là là.
Il y a des choses comme ça. Il y a, les exemples sont multiples. Même pour, comme on a une course avec la montre, j'aimerais passer tout droit aux petites questions que je pouvais présenter aux invités. La première question serait celle de savoir, M. Jody, quel invité nous dit, vraiment distinctement, pourquoi le gouvernement, au travers des ministères, cabinet ministériel. Ne recrute pas les gens. Là, on nomme un ministre, lui va seulement nommer. Mais là, pourquoi cette histoire?
Hein, bien, c'est la seule question. Quelle est la deuxième question? Non, pourquoi le gouvernement ne recrute pas?
C'est la première.
Deuxième?
Voilà. La première.
La deuxième?
Deuxième. Pour quel motif ces anarques là font des choses alors qu'on peut retrouver ces anarques sont des membres du gouvernement, M. Jody. Et le gouvernement ne le font rien. Pourquoi? N'est-ce pas que le gouvernement est complice? Le gouvernement vient nous tuer encore double fois? Ou bien c'est comment? Et pour atterrir, M. Jody, pour finir, je vais demander. Quand l'orateur, quand je le suis bien, avec beaucoup d'intérêt, il parle de on aime. Moi, j'aimerais qu'il nous explique, hein, avec beaucoup de détails, quand est-ce que nous sommes à l'Équateur, à Mandaka ici, quand est-ce que l'on aime a reçu un lot des offres pour recruter le jeune?
Dumbandaka, merci beaucoup.
On aime.
D'accord, M. Stanislas va répondre à votre préoccupation tout à l'heure. On va donner la parole à Diallo depuis Kinshasa. Bonjour Diallo.
Bonjour M. le journaliste.
Oui, quelle est votre question Diallo?
Ma question est que ça fait longtemps, même dans des réseaux sociaux, on est en train vraiment d'escroquer les gens.
Oui.
Je ne sais pas si le gouvernement est au courant. Parce que le jeune dépense beaucoup, beaucoup d'argent. On a tous ce pillage-là. Parce que moi, je vais l'appeler pillage, en un mot. On est en train de piller le petit peuple. Pourquoi? Parce que auparavant, le gouvernement lançait de messages, de communiquer partout s'il y a emploi. Mais maintenant, les gens se sont appropriés de ces méthodes pour escroquer les jeunes. Vraiment, ça fait mal, ça fait mal.
Monsieur Diallo, vous vous êtes aussi fait escroquer une fois?
Oui.
Et vous avez dépensé combien?
À peu près $50.
$50. Et puis, le monsieur avait disparu dans la nature, les téléphones ne passaient plus.
Il a disparu dans la nature jusqu'à présent, aucune suite. Son téléphone ne passe plus, il n'y a rien.
D'accord, merci. On va donner la parole à Justin Koulou de Fungurume. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur Jody. J'ai dit bonjour à notre invité.
On vous écoute, Justin.
En tout cas, la meilleure façon de faire les choses, même pour les médecins, au lieu d'attaquer les symptômes, on attaque l'agent causal. Au Congo, ça devient normal pour avoir un poste. À part les postes au suffrage direct, le reste, il faut introduire quelque chose pour que vous ayez un poste. Les administrateurs du territoire, les bourgmestres, ça d'abord, c'est d'abord dans les gouvernements. Le Congo, c'est un pays sensiblement connu avec les taux très faibles de l'emploi. C'est tout le monde qui cherche à vivre et on est impatient. Et quand on lit quelque chose, en tout cas, on ne peut pas me retenir. Je donne l'exemple de chez nous à Fungurume. Donc, il y a les sociétés qui essaient de donner un peu l'emploi. Il y a les gens qui sont venus de partout au monde, puisqu'à Fungurume, Badibangata. Alors, ils sont venus et ils ont utilisé de leurs ruses, de leurs manières pour avoir l'emploi. Alors,
quelle est la question?
Se place avec un
Oui, on a pris beaucoup de temps.
Quelqu'un se place avec un téléphone. Tel venait, il entre et le travail. On voit celui-ci qui a donné l'argent, il entre. C'est lui qui a... Alors nous tous, nous commençons maintenant à être emportés. Quand on te sollicite, non, oui, c'est la réalité, tu donnes. Et ici, là, Kinshasa est partout ailleurs, c'est rien. L'affaire, c'est à Fungurume.
Alors, c'est, je pose c'est la à Fungurume, oui, il y a une grande escroquerie.
Oui.
D'accord. Même à Lubumbashi, avec les entreprises minières, beaucoup des escrocs fonctionnent là-bas. Alors, quelle est la question que vous adressez aux invités?
Je pose la question à notre invité. Il est au courant que même au gouvernement, pour avoir un poste, il faut faire la corruption. Et il est au courant que Le Congo est très pauvre en emploi et tout le monde cherche l'emploi.
D'accord.
Et, si on te propose, lui là, il peut résister. Si on lui dit que non, tu seras un premier ministre, glisser un peu quelque chose. Et lui, notre invité à la radio Capi, il peut résister.
D'accord.
Et si on l'envoie,
si on lui dit. On lui demande de l'argent.
On l'envoyait à surveiller l'examen d'État.
Oui.
Est-ce qu'elle peut refuser l'argent des circuits?
D'accord, il va, monsieur Alain Poutou, vous allez répondre tout à l'heure. Monsieur Stanislas Capena, vous avez la parole. Allô, monsieur Stanislas?
Allô, je suis là, vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Allô?
Oui, on vous entend.
Oui, je disais, je vais aller droit au but. C'est pas qu'on me coupe la parole avant que je ne termine.
Allez,
merci à M. Poutou pour son intervention. C'est vraiment ça l'idée. Arriver la coercion, c'est pas l'objectif, mais je pense qu'à un certain moment, on doit arriver à ça. Les autres SPE, on a participé à des conférences, ils ont certains pouvoirs. Et nous, c'est pas ça l'objectif. Nous voulons d'avoir la collaboration. C'est la deuxième chose. Il faut une collaboration étroite entre l'ONEM et les entreprises. J'avoue que cette collaboration a déjà commencé à s'installer. Elle doit s'intensifier, parce que les arnaqueurs ne rançonnent pas seulement les demandeurs d'emploi, mais aussi ternissent l'image de ces entreprises au nom desquelles ils sont en train de demander de l'argent. Alors, j'ai suivi la midi à Mbandaka là-bas. L'ONEM ne recrute pas, M. Poutou est là. L'ONEM présélectionne, ça on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas empêché d'y revenir, comme service public de l'emploi, l'ONEM reçoit la déclaration des vacances, présélectionne pour l'entreprise en besoin et c'est l'entreprise qui recrute et qui engage. Je pense qu'il faudra encore des émissions pour sensibiliser sur ça, sur l'émission de l'ONEM. On ne sera jamais fatigué de le dire. Mais le monsieur a dit, le jeune dépense beaucoup d'argent, mais c'est, en aucun jour, moi, j'ai vu le gouvernement demander aux jeunes de donner de l'argent pour être engagés. Ni chez les publics, ni dans les publics, ni dans les privés. Donc, les jeunes qui dépensent de l'argent, c'est eux-mêmes. Je comprends quand le monsieur, le dernier intervenant, a parlé pour dire que oui, c'est la souffrance, tout le monde veut trouver du travail, mais pas à tout prix, sinon vous allez même vendre votre vie parce que vous voulez trouver du travail. On peut vous emmener, parce que vous voulez trouver du travail, on vous amène là où vous ne connaissez pas, et puis on vous enlève, on vous fait des choses. C'est-à-dire un peu de jugeote, un peu de jugement, des critiques pour voir, oui, je veux du travail,
oui.
Mais comment et à quel prix, vous voyez? C'est comme ça que je peux me résumer. Donc c'est cela que le gouvernement ne recrute pas. Vous avez déjà répondu. L'administration, il y a toujours des tests, les NAS, ça on suit, ça c'est le gouvernement, c'est la fonction publique. On recrute, il y a des offres. Nous-mêmes là, l'ONEM, on vient de diffuser une offre. Voilà, je le dis comme ça en direct. Consultez la plateforme de l'ONEM, vous allez trouver, il y a l'offre des chauffeurs dont le gouvernement engage. Mais on n'engage pas partout. Quand vous avez besoin de votre chauffeur, vous avez besoin de votre conseiller, bon, vous êtes libre de lancer l'offre ou de trouver quelqu'un que vous connaissez déjà qui a les profils. Il y a des postes, comme M. Poutou avait dit, qui ne sont pas ouverts à tout le monde. C'est peut-être des choses, des mentalités que les gens doivent intégrer. Donc, c'est un peu ça. Je suis allé vite, parce que j'ai craigné que vous me disiez, c'est la fin.
Oui, c'est déjà presque la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Stanislas Capena. Je rappelle que vous êtes le point focal à l'ONEM, chargé de la coordination des offres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Bien, nous allons conclure aussi avec monsieur Alain Poutou. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Les gens se font arnaquer facilement. Et quelqu'un vous a même posé la question si on vous donne, voilà, monsieur Alain, on vous offre un poste intéressant, donnez autant, est-ce que vous allez résister?
Comme on dit en droit, il appartient à celui qui allègue les faits d'en donner des preuves. Je pense que ce que les auditeurs ont soulevé ici sont des réalités. Des réalités, ça on ne peut pas se voiler la face. S'ils disent ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils en ont des preuves. Bon, comme ils ont parlé du gouvernement, au niveau du ministère, tout, oui. Là, en tout cas, vous êtes journaliste, vous n'allez pas apprendre qu'il y a des offres d'emploi qui sont publiées pour constituer un cabinet politique ou un cabinet gouvernemental. Maintenant, à ceux-là qui prennent des postes, par exemple, des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des mandataires, une fois ils sont nommés, qu'ils viennent avec les membres de famille, comme certains auditeurs l'ont dit ici, ça c'est vraiment une pratique, honnêtement, pour être sincère envers vous, s'il faut décourager. Il faut vraiment décourager parce
que... Pour les gens des partis politiques,
oui, oui, oui. Franchement, ça il faut décourager. Pourquoi? Parce que on est dans un pays où le taux du chômage est trop élevé même. Alors, si vous, parce que vous avez des relations avec un DG ou un DGA, il va vous faire embaucher facilement. Mais une personne qui n'a pas de relation va faire quoi? Vous comprenez? Ça, franchement, on devrait peut-être voir dans quelle mesure avoir des dispositions. On peut vous nommer, vous, peut-être pour des raisons politiques, mais pour constituer les cabinets, peut-être il faut identifier les postes pour lesquels il faut que les gens commencent à postuler.
Et publier les offres.
Tout à fait, parce que c'est vraiment pas possible. Vous allez rencontrer un collègue avec lesquels vous avez fini les études ensemble, qui vous dit, mais lui, il travaille dans tel ministère ou dans tel établissement, mais vous vous posez la question.
Mais à quel moment on a publié? Alors, donc, monsieur Alain Poutou, comment les escrocs arrivent à connaître les noms des gens, tout ça, et ils vous appellent par votre nom pour vous dire qu'il y a une offre ici intéressante?
Oui,
pour vous.
Alors moi, par exemple, j'ai compris, comme je suis souvent dans des chaînes de télévision et dans des radios, en tout cas, moi, quand j'essaye de voir ceux qui m'appellent, malheureusement, moi, ils n'ont jamais eu même un franc de moi. Ça, je le dis ouvertement, ils n'ont jamais
eu ça. Ils ne l'auront jamais.
Non, jamais, parce que moi, je suis un directeur des ressources humaines. Ça, c'est mon domaine. Oui. Comment quelqu'un peut me tromper facilement comme ça? Mais il m'appelle, il dit oui, parfois, il commence par me demander mon centre de formation. Voilà, on a besoin d'un expert international. Ils pensent que c'est facile comme ça. Oui. Alors, je pense qu'il faut demander à ceux qui ont fait la numérique, par exemple, qui vous disent comment est-ce qu'ils font pour avoir les numéros des gens avec leur nom.
Avec leur nom.
Voilà. Mais ce que je vais aussi demander à nos auditeurs, il faut dénoncer. Hein. Il faut vraiment dénoncer, parce que si vous, on vous contacte par un escroc comme ça, et vous gardez ça.
Vous cachez parce que vous avez honte.
Il faut dénoncer. Moi, au sein de notre centre de formation, à chaque fois avant de commencer la formation, moi je parle de ça. On vous téléphone par quelqu'un qui vous dit, donne l'argent pour que je vous donne du boulot. Il ne faut pas accepter. On ne peut pas avoir un recrutement sérieux en passant par... Alors, ils vont toujours vous dire, comme l'a dit l'auditeur ici de Mbandaka, non, mais vous savez, on sait, ou celui de Funguru, mais on sait qu'il faut... J'ai dit oui, si chez l'État, vous avez des preuves, parce que c'est vous qui êtes en train de les dire, moi je n'ai pas de preuves, je ne peux pas affirmer des choses pour lesquelles je n'ai pas de preuves.
Vous n'avez pas de preuves.
Voilà, ça c'est pas bon. Il dit non, ça s'est fait comme ça, parfois pour qu'on vous donne les matricules, il faut payer l'argent. J'ai dit, mais moi je n'ai pas de preuves. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, si ça se fait comme ça, il ne faut pas accepter. Il faut refuser. Le problème, c'est comme vous voyez quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il est dans une entreprise, on peut aussi l'entraîner dans une obédience exotérique. Lui, c'est un chrétien. Mais parce qu'on le met dans des conditions, dans une pression préméditée, vous voyez un chrétien qui a la Bible,
qui craint Dieu,
mais qui est dans des mouvements
exotériques,
simplement parce qu'il veut protéger son emploi. Oui. Vous verrez, vous êtes dans une entreprise, on change les DG, on change les DGA, les nouveaux qui arrivent, vous voyez les gens, du coup, ils basculent, ils deviennent des lèche-bottes du patron, simplement pour protéger...
Alors, pour terminer, comme on n'a plus beaucoup de temps, quel conseil vous donnez aux jeunes à la recherche de l'emploi par rapport à cette histoire des fausses offres?
Alors, moi, ce que je veux dire clairement aux jeunes, messieurs les journalistes, c'est d'abord bien lire l'offre d'emploi, identifier les éléments substantiels d'une offre conforme. Deuxièmement, rassurez-vous que votre profil correspond au profil recherché par les recruteurs. Troisièmement, il ne faut pas se décourager. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens, comme ils savent que trouver de l'emploi pose un problème, les gens se découragent et ils sont exposés à tout. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir des compétences recherchées par les recruteurs. En ce qui concerne les escrocs, il ne faut pas donner même $1 à quelqu'un pour trouver de l'emploi. Et si vous tombez dans ça, il faut dénoncer. Et dites même à cette personne-là que je vous dénonce.
Merci beaucoup, monsieur Alain Poutou, expert en ressources humaines. À la prochaine.
Merci beaucoup.